J'ai essayé de montrer la dernière fois en quoi l'autonomie structurelle pleinement advenue, qui caractérise notre situation historique, fonctionne comme un système de la méconnaissance. C'est de ce côté qu'il faut chercher les racines profondes de la crise de la démocratie. Système, parce que les éléments de la structuration autonome, le politique, le droit, l'orientation historique, dans la forme qu'ils en sont venus récemment à revêtir, ces éléments s'ajustent exactement pour créer un théâtre des apparences, où le politique se cache derrière la politique, où le droit des individus fait oublier la société des individus, où l'action historique se réduit à l'action économique. Bref, chacun de ces éléments, structurellement, ne laisse voir qu'une face en renvoyant l'autre face dans l'ombre. Et cette face visible n'est pas n'importe laquelle, elle est celle qui se prête à une connaissance positive et technique. Nous sommes passés effectivement dans des sociétés de la connaissance. L'expression est à prendre au sérieux en lui donnant son sens précis. Nous sommes dans des sociétés où l'ensemble des activités est susceptible d'être relu et optimisé par des savoirs positifs qui vont du coaching personnel et de la consultance ou de l'expertise généralisée jusqu'au noyau dur constitué par le trio de la science juridique, de la science économique et des sciences exactes. Sciences exactes, regardées surtout sous l'angle de leurs applications techniques plus que sous l'angle théorique. Nous pouvons parler d'une réflexivité opérationnelle à propos de cette relecture systématique des activités sociales à la lumière d'une connaissance rationnelle destinée à en accroître l'efficacité. On ne saurait trop souligner la portée de ce fait qui représente à de certains égards un aboutissement du désenchantement du monde, en prenant l'expression à la lettre. Ce fait dissipe, en apparence en tout cas, ce qui pouvait subsister de mystère du pouvoir, de mystère de la société ou de mystère de l'histoire. En tout cas, il en entretient la conviction chez les acteurs. Quand bien même il y aurait mystère, il présume qu'il n'y en a pas. Et c'est à ce titre qu'il doit nous retenir. Ce fonctionnement social à la connaissance est ce qui verrouille notre système de la méconnaissance. Car ces savoirs ont la propriété remarquable de communiquer à leurs acteurs la conviction qu'il n'y a rien d'autre à savoir. Ils sont clos sur eux-mêmes et ils excluent du dedans la perspective d'une interrogation sur eux-mêmes. Ce qui ne veut pas dire, Dieu merci, qu'ils interdisent une telle interrogation. Mais ils n'y mènent pas. En quoi nous pouvons dire que la réflexivité opérationnelle qui caractérise le fonctionnement de nos sociétés, très indiscutablement, cette réflexivité opérationnelle exclut la réflexivité véritable. En quoi consisterait celle-ci, en l'occurrence ? À se demander, par exemple, pour commencer, comment quelque chose comme la politique représentative, est devenue possible, alors que pour l'écrasante majorité des sociétés dans l'histoire, le pouvoir est par essence ce qui s'impose d'en haut sans se discuter. Sinon, il n'est plus pouvoir. Et ce n'est pas si loin de nous. Au XVIIIe siècle, dans la libre Angleterre, pointe avancée à l'époque de l'émancipation du genre humain, le Premier ministre, issu de ce qu'on peut regarder comme un embryon de pouvoir représentatif, lorsqu'il va rendre compte de son action au roi, s'adresse à lui à genoux. La réflexivité véritable, celle que nous avons à essayer de mettre en œuvre, consisterait de la même manière à se demander comment le primat du droit de l'individu a pu s'imposer au rebours de la subordination générale de l'individu au groupe qui a caractérisé jusque-là l'ensemble des sociétés, y compris la démocratique Athènes, où le citoyen compte non en tant qu'individu, au sens où nous l'entendons, mais en tant que partie prenante de la cité. La réflexivité véritable consisterait aussi bien encore à se demander comment cette dynamique économique qui nous emporte vers un avenir qu'elle rend en même temps impensable a pu s'installer, à l'opposé du besoin de stabilité traditionnelle qui a organisé toutes les sociétés connues. Toutes interrogations qui n'ont pas de place dans notre société de la connaissance. Et en effet, de prime abord, elles sont de nulle utilité pour ce qui est de régler son fonctionnement. À l'inverse, notre société de la connaissance tend à regarder son état comme naturel, comme celui qui aurait dû, depuis toujours et partout, prévaloir. Et qui, chez et qui a dû, en fait, plus ou moins prévaloir embryonnairement. D'où le succès, notons-le au passage, du naturalisme évolutionniste en guise de substitut à la philosophie de l'histoire. La vraie roc interprétatif sur lequel fait fond l'état de nos sociétés est celui-là. pour ceux qui se posent quelques questions tout de même sur ce qui peut nous relier au passé. La société de la connaissance est indifférente à ce qui n'est pas elle, c'est-à-dire au premier chef au passé, non pas à l'héritage patrimonial du passé, au passé comme aventure, trajet, parcours pourvu d'un sens. Pour ce qui est de ce sens, il est présumé, relevé spontanément, au lieu des acteurs de nos sociétés, d'un impensable barbare sans grand intérêt. La société de la connaissance se pose comme hors histoire, ou après histoire, ou post-histoire, dans l'assurance d'être ce qu'elle est, et fermée sur ce qu'elle est. La société de la connaissance, sur l'autre pôle, est la société la plus étrangère qui soit à la perspective de son propre dépassement. Ce qui peut tromper superficiellement à cet égard, c'est la place qu'elle ménage à la critique. Car pour ce qui est de la critique, elle n'en manque pas, elle en vit. Une pseudo-critique, en réalité, si l'on veut bien prendre ce terme de critique en lui donnant toute sa portée, une pseudo-critique qui consiste très généralement à réclamer davantage de ce qui alimente la méconnaissance, que ce soit au titre de l'économie ou que ce soit au titre du droit. C'est un point crucial sur lequel nous aurons évidemment à revenir en nous posant la question: qu'est-ce qu'une vraie critique? Question brûlante à l'heure où il s'agit de mesurer que la pseudo-critique peut être la forme suprême de la méconnaissance. Nous n'avons pas affaire simplement ainsi à un système de la méconnaissance, mais à un système verrouillé dans la conscience de ses acteurs par la connaissance efficace qu'ils ont des rouages de son fonctionnement. Une connaissance bien plus puissante que n'importe quelle justification extérieure. Au demeurant, la pente bien connue est à se passer de pareilles justifications. L'époque, le ton de l'époque est au pragmatisme. À ce premier verrou, il faut en ajouter un second qui tient à la reformulation de la promesse démocratique accompagnant la décantation de l'autonomie structurelle. Du point de vue des acteurs, le système des apparences sous lequel se présente l'autonomie structurelle fait miroiter la promesse d'une démocratie des libertés privées. Une démocratie où l'autonomie est spontanément conçue comme la maîtrise des univers personnels définis par les droits et les intérêts de chacun, indépendamment de l'auto-gouvernement de l'ensemble collectif. soit très exactement la vision qu'articule l'idéologie néolibérale. Elle n'est rien d'autre que la traduction doctrinale de cette version de la promesse démocratique. Elle lui doit son enracinement et son hégémonie. Une hégémonie qui peut paraître contestée. Et dans tous les cas, jamais une dominance idéologique ne s'est traduite, n'oublions pas, par un règne exclusif d'une idéologie. Il y a d'autres adhésions, bien sûr, dans notre univers, que l'adhésion à l'idéologie néolibérale. Hégémonie qui peut paraître contestée, mais qui ne l'est là aussi qu'en apparence. Ce qui trompe à cet égard et qui en masque la prégnance, c'est qu'elle se présente divisée, de par son objet et son foyer même. En gros, elle alimente deux partis idéologiques, et non un seul. Partis idéologiques à distinguer des partis politiques au sens strict. En gros, il y a le parti des intérêts, la droite, pour faire simple, et il y a le parti des droits, la gauche. L'erreur est de réduire l'idéologie néolibérale au parti des intérêts et de n'y voir qu'une idéologie économique. Elle est en fait une vision complète de la vie en société, même si dans cette vision de la société, pour des motifs que nous tâcherons d'éclaircir, l'économie joue en effet un rôle de modèle essentiel. Le parti des droits, qui conteste le parti des intérêts au nom des droits, est en vérité sont complémentaires autant et plus que son adversaire. Ce pourquoi, d'ailleurs, il est en dernier ressort impuissant contre lui. Pour la bonne raison qu'il partage les mêmes prémices. Ce qui coince malgré tout, ce qui fait difficulté dans cette vision de la promesse démocratique, c'est la résultante, exclue du champ de vision, puisque renvoyée à l'agrégation automatique des effets et des produits de cette poursuite des droits et des intérêts individuels. Exclue au départ, elle n'engendre pas moins à l'arrivée une certaine forme de société, un certain type d'histoire, un certain type de politique qui ne correspondent pas forcément, c'est un euphémisme, aux aspirations initiales des acteurs qui ont, en dépit de tout, quelques peines à se reconnaître dans le produit final où ils avaient investi. La méconnaissance ne saurait empêcher les réalités qu'elle recouvre de finir par se manifester, et on peut s'y heurter d'autant plus durement qu'elles ne sont pas anticipées. Quant aux illusions qu'autorise la méconnaissance, car il faut articuler les deux termes, méconnaissance illusion. Le négatif de la méconnaissance est le positif de l'illusion. La méconnaissance suscite, permet, ouvre sur des possibles illusoires. C'est sa fonction. Quant à ces illusions, elles provoquent à l'arrivée des déceptions et des frustrations d'autant plus rudes qu'elles sont incompréhensibles, qu'elles n'ont pas d'explication dans le cadre intellectuel où évoluent spontanément les acteurs. Comment se fait-il, par quel scandale les choses ne se passent-elles pas comme prévu? Ce phénomène, facile à repérer, joue, il faut le remarquer, comme un mécanisme de renforcement de la démocratie du privé. Puisqu'il n'y a décidément rien à attendre du côté de la vie collective, ou une espèce de maléfique dénaturation des aspirations de chacun finit toujours par se produire, replions-nous sur le pré carré de l'indépendance individuelle. Faisons-en un rempart, une citadelle inviolable contre les intrusions de cette vie sociale qui nous échappe, et n'attendons notre salut que de nous-mêmes. Loin, débrouillez-vous, comme dit M. Attali. Loin de tourner les acteurs vers la remise en question du cadre où ils s'insèrent, les frustrations qu'ils sont voués à y éprouver les y enfoncent. Le mécanisme est très remarquable et est une des explications de la stabilité étonnante de nos sociétés au milieu des frustrations qu'elles ne cessent de provoquer, c'est que ces frustrations alimentent le mécanisme qui est à l'origine de la frustration. Toujours est-il, c'est le point principal que je voulais faire ressortir, qu'à la méconnaissance sécrétée par le type de connaissance que mobilise le fonctionnement collectif, s'ajoute la méconnaissance qui s'attache à cette version néolibérale de la promesse démocratique. Comme s'il était possible d'être maître de son destin personnel sans prise aucune sur le destin commun et à part de lui. Les deux. Se nouent et se nourrissent mutuellement. Il est essentiel à cette promesse de maîtrise individuelle de se couler dans le langage de la connaissance technique qui préside au fonctionnement collectif. C'est dans cet horizon que la dite maîtrise est attendue et espérée. Non pas du tout que chacun puisse prétendre être maître de l'ensemble de ses savoirs, bien au contraire. L'important, c'est qu'il soit toujours possible de s'adresser à des experts ou à des spécialistes, dont on peut dresser la liste innombrable, dont le concours fera de votre domaine personnel un domaine appropriable, parce que disponible à une telle maîtrise. L'important, c'est la traductibilité de votre champ d'expérience dans ce langage-là. Il y va d'une authentique passion qui engage l'idée de soi et le rapport à soi-même sous le signe d'une certaine transparence cognitive, excluant ce qui n'y entre pas. Un exemple particulièrement topique, me semble-t-il, j'avais relevé jadis sur un plan purement descriptif le changement du rapport à l'inconscient, sa découverte s'était traduite par une démarche qui paraissait à tort naturelle, consistant à essayer d'aller voir ce qui se passe là-dedans. Puisque nous avons un inconscient, autant essayer d'en prendre un petit peu conscience, au moins. Plus rien de pareil, du point de vue de la culture ambiante. L'existence de l'inconscient n'est pas forcément niée, mais elle est posée comme indifférente. Ben oui, on a un inconscient, et alors on s'en fout. Ça change quoi? L'important est ailleurs. L'important réside dans la possibilité d'influer concrètement sur les ressorts du comportement et sur le bien-être personnel. D'où la fortune du coaching auquel je faisais allusion tout à l'heure, des comportementalismes divers ou encore du management de soi. Toute discipline de bien moindre ambition théorique que la psychanalyse de jadis, mais porteuse d'une promesse qui parle bien davantage à nos contemporains, une promesse tournée vers la maîtrise pratique d'un espace individuel considéré objectivement comme n'importe quel domaine d'action positive. Dans l'autre sens, tous ces savoirs opératoires sont articulés autour du point de vue de l'acteur individuel et y reconduisent. Leur forme est congruente avec la logique individualiste. C'est un point très important que nous reprendrons méthodiquement et c'est un autre aspect de notre système de la méconnaissance qu'il faudra mieux cerner. Je me borne pour le moment à identifier ce nœud. Il aide à comprendre pourquoi nous avons affaire à une impasse dont les acteurs ne sont pas portés à sortir, quand bien même ils la constatent. Les outils intellectuels dont ils disposent les y ramènent, en dépit de leur aspiration à en sortir ou à y échapper. Tel me paraît être ainsi le facteur central de notre bizarre crise de la démocratie. Elle est une crise de méconnaissance. Méconnaissance par les acteurs de la structure de leur société et de la manière dont elle fonctionne. Je ne dis pas ignorance. Ce n'est pas qu'ils ne savent pas, c'est que ce qu'ils savent compose une image fausse qui leur dissimule le mécanisme véritable du monde social où ils s'inscrivent. Une image fausse projetée par ce mécanisme lui-même. Il n'y a ici aucun malin génie travaillant dans la coulisse à égarer les esprits pour des motifs intéressés. C'est ce mécanisme qui engendre de façon cohérente et logique l'image que les acteurs s'en font. Une image qui se prolonge dans une version tronquée de ce qu'est et de ce que doit être la démocratie. Elle ne saurait se ramener à cette coexistence d'indépendance personnelle en expansion, comme s'il pouvait exister une souveraineté individuelle déconnectée de toute souveraineté collective. Et en dernier ressort, comme nous verrons, comme s'il pouvait exister une liberté sans pouvoir. La méconnaissance de ce que veut dire démocratie et de ce qu'exige la démocratie vient ainsi boucler la méconnaissance de la mécanique collective en engendrant un monde de somnambules, vaguement angoissés par le sentiment de l'irréalité du songe où ils sont pris et le danger où ce songe les expose, mais en peine de s'éveiller. L'analyse complète en l'élargissant, l'analyse initiale que j'avais esquissée de cette crise de la démocratie sous un angle plus étroitement juridique et politique, en examinant ce que le droit fait à la démocratie. Entendons par droit, de nouveau, la décantation du principe de légitimité moderne qui débouche sur notre second moment des droits de l'homme. Je me permets de renvoyer ceux d'entre vous que cela intéresse à la présentation synthétique de cette interprétation juridique de la crise de la démocratie que j'avais donnée dans un tout petit livre qui s'intitule « La démocratie d'une crise à l'autre ». Un opuscule plutôt qu'un livre. Pour résumer cette interprétation en deux mots, la dynamique des droits individuels conduit à l'incapacitation du pouvoir. La démocratie des droits de l'homme tend à se faire antipolitique. Davantage encore, elle en vient insensiblement à saper ses propres bases dans un processus d'autodestruction douce qui justifie de parler d'une démocratie contre elle-même. Je n'ai rien à renier de cette analyse qui se concentre sur le foyer éclairé de la dynamique démocratique. Mais il lui manquait d'inscrire ce foyer éclairé dans un tableau d'ensemble faisant place notamment à la dimension économique. Dimension économique à laquelle on impute communément le sentiment d'impuissance ou de dépossession qui font parler de crise de la démocratie pour de bonnes et de mauvaises raisons. Les mauvaises raisons tiennent à l'économicisme ambiant qui renvoie mécaniquement toute explication des phénomènes politiques et sociaux à leur supposée base matérielle. Les bonnes raisons qui mérite d'être considéré et approfondi, réside dans l'intuition justifiée que le domaine économique a pris une place inédite dans le fonctionnement collectif et qu'il représente une force de contrainte qui entraîne les sociétés comme malgré elles. À l'instar d'une puissance qui s'imposerait à elle du dehors. Sauf que, justement, cette force effectivement extériorisée, nous avons vu en quel sens, de par l'autonomisation du secteur économique à l'intérieur de la vie collective, dans un contexte de mondialisation qui renforce cette séparation de l'économie, venue probablement à un stade au-delà duquel il serait difficile d'aller, cette force extériorisée procède en même temps du dedans de nos sociétés. Elle est portée par une demande et des attentes qui émanent d'elle et qui ne se réduisent pas aux intérêts de la poignée de plutocrates qui en bénéficient. Il faut comprendre en quoi les acteurs de nos sociétés trouvent leur compte dans cette automatisation du domaine économique. Nonobstant les effets redoutables que cette automatisation peut avoir pour eux. Et il faut comprendre, d'autre part, en quoi cette dynamique économique est animée par un dessein qui, pour n'être pas apparent, n'en est pas moins plein de sens. La reproduction élargie du capital est en elle-même, en effet, une dynamique dépourvue de sens, collectivement parlant, au-delà de la logique propre de l'investisseur. Mais elle n'est qu'un mécanisme au service d'une visée d'objectivation du monde humain qui, elle, rallie inconsciemment les esprits pour des motifs qu'il faut tâcher de pénétrer. C'est un point sur cette affaire que je voudrais tenter de faire. Nos sociétés, pour le dire autrement, ne sont pas simplement victimes d'un capitalisme mystérieusement sorti d'elles. Je reste toujours pantois de voir des esprits exigeants et sophistiqués s'accommoder de cette fable pour enfants prépubères. Ce capitalisme qu'elle charge de malédiction, tout en lui réclamant quelques avantages acquis et à venir, nos sociétés l'ont produit. Et il faut se demander en quoi elles s'y reconnaissent. Il n'est pas vrai de surcroît que ce capitalisme s'inscrit dans une série logique de modes de production dont il ne représenterait que le dernier terme. Il constitue une création parfaitement originale. Et non seulement nos sociétés l'ont produit, mais elles y logent quelque chose d'essentiel, tant du point de vue de ses formes que du point de vue des contenus qu'il brasse, quelque chose qu'il s'agit de déchiffrer. C'est en effet la part de la vie collective que la théorie politique classique a négligée et qu'il est tentant de négliger. Pour Rousseau, en dépit de l'article « Économie politique » de l'encyclopédie, cette part n'existe à peu près pas, pour des raisons parfaitement intelligibles. Le citoyen se constitue dans le dépassement des activités concrètes qu'il est bien obligé d'exercer dans sa vie ordinaire, mais que la sublimité de la participation politique lui fait laisser de côté. Pour Hegel, qui découvre l'importance de cette part de la vie collective, elle commence à exister fortement, mais elle est subordonnée. La société civile et le système des besoins autour duquel elle s'organise reste sous la coupe de l'État qui lui assigne sa juste place au nom de l'idée supérieure du tout dont il est porteur. Avec Marx, à l'opposé, cette part devient décisive. Elle devient la part où se joue le sort de l'existence collective. C'est tout l'enjeu du renversement qu'opère Marx. Jusqu'alors comprimé sous l'étreinte du politique et de la domination du politique, la société civile économique, le foyer révolutionnaire de l'invention historique, devient porteuse potentielle de l'émancipation du genre humain. Le dénouement de la contradiction entre le capital et le travail qui assure sa dynamique présente nous promet, avec l'abolition de la propriété privée, l'abolition des classes et de l'État. L'avenir de la société civile économique, autrement dit, c'est de devenir la société tout court, la société des libres producteurs associés, sans plus de domination politique, sans plus de mystification juridique, sans plus d'exploitation économique. Ce coup-ci, le balancier est allé trop loin dans l'autre sens. On est passé de la sous-estimation à la surestimation. Sur ce chapitre, l'expérience historique du XXe siècle a parlé, on pourrait en traiter longuement. La société civile, si l'on veut dégager en peu de mots la leçon de l'expérience historique du XXe siècle, la société civile n'est pas destinée à prendre toute la place en détruisant purement et simplement la superstructure politique. nous avons de solides raisons de tenir qu'il n'y aura pas d'abolition de l'État, ni de la nation, ni d'ailleurs de la propriété privée. À cet égard, l'idée communiste a été évacuée de la scène politique. De nos sociétés, au sens où elle n'est plus un horizon crédible. Cela ne veut pas dire qu'elle est morte. Elle est immortelle en tant qu'une des idées pures de la société parfaite. Une des idées pures à côté d'une autre idée, non moins forte et non moins immortelle, qui est l'idée anarchiste. Mais elle n'appartient plus au cercle des perspectives mobilisatrices, comme elle a pu l'être dans une conjoncture historique définie, en tant précisément que perspective de la substitution de la société à la communauté politique, renvoyée au magasin des antiquités. De ce point de vue, nous retrouvons le cercle de la philosophie classique. Et on voit bien comment l'échec du marxisme s'est traduit par le retour de la philosophie politique classique. Mais un retour qui n'est pas un retour à l'identique, quand il le devient, il est d'un faible intérêt, car nous revenons dans ce cercle de la philosophie politique classique avec un ajout, avec une innovation essentielle, qui en a modifié grandement la teneur et la grammaire. Cette irruption de la société n'a pas été pour rien. Elle ne s'est pas purement et simplement effacée avec le fiasco de son extension hyperbolique. Elle a, pour de bon, introduit une dimension supplémentaire par rapport à ce que pouvait être, par exemple, la vision hégélienne, la dernière pensée politique classique. Une dimension supplémentaire qui attend d'être digérée. Et beaucoup du sort de nos démocraties dépend de cette digestion. L'irruption de la société oblige effectivement à repenser ce que veut dire démocratie et ce que peuvent être les conditions de son fonctionnement. Nous sommes dans la ligne de la philosophie politique classique, mais un pas plus loin. C'est ce pas qu'il nous faut essayer de mesurer, au moins préliminairement. Il y a deux nécessités dans la société de l'histoire, la société qui s'invente elle-même dans le temps, et qui s'organise pour ce faire, il y a de nécessité deux voies de la démocratie et non pas une seule. Il y a d'un côté nouveauté immense, une démocratie du privé, pourrait-on dire, une démocratie de la société civile privée, où se déploie l'inventivité des individus et des groupes. Il faut reconnaître dans cette inventivité une expression à part entière de la puissance démocratique, comme puissance de création de son propre monde. Elle se manifeste notamment et principalement dans l'économie, mais pas seulement. Elle concerne aussi bien la culture dans l'acception la plus étendue du terme, elle concerne aussi bien les mœurs, les formes de vie qui ne cessent de se redéfinir dans les libres interactions entre les personnes. C'est l'une des plus fortes justifications de la liberté individuelle. Celle-ci est un pouvoir, et un pouvoir qui intéresse en fait tout le monde, au-delà de son titulaire, car elle est une puissance d'invention ou de création. Si humble soit-elle, dont tous peuvent bénéficier au final. C'est aussi bien, pour aborder un terrain brûlant, la raison pour laquelle il n'y aura pas, à horizon prévisible, d'abolition de la propriété privée et de la liberté d'entreprise qui lui est attachée. Elles sont les conditions pratiques de cette puissance d'invention que nul ne saurait anticiper, préempter et encadrer. C'est le point sur lequel les systèmes d'économie centralisée et planifiée se sont fracassés. Aucune planification ne pouvait prévoir et organiser, pour prendre un exemple névralgique, l'invention de l'ordinateur personnel, la mise au point des moteurs de recherche, l'expansion des réseaux sociaux. Ce n'est pas par hasard que les économies de commandement de style soviétique ont révélé leur impotence et ont été balayées avec l'entrée dans l'âge de l'information et l'émergence du numérique. En d'autres termes, la puissance démocratique ne se résume pas dans la participation civique à la désignation des gouvernants et par son intermédiaire à l'élaboration des lois qui encadrent le fonctionnement collectif. La puissance démocratique consiste aussi et pour une part essentielle dans cette capacité de création attachée à la liberté des acteurs. Qui commence dans l'invention par chacun de sa propre vie. Invention qui, par un biais ou par un autre, puisqu'elle est réflexion sur les formes, les règles, les usages existants, la manière de les mettre en œuvre, concerne, si lointainement que ce soit, tout le monde. il est indispensable de faire place à cette dimension tacitement politique de l'expérience collective et de l'existence privée, qui dimension qui bouscule considérablement l'idée classique de la politique. Et il y a au total plus de politique dans bien des existences privées que dans le bavardage de la scène médiatique. Sauf que si elle oblige à reconsidérer les termes de la politique, elle en relance et elle en approfondit la nécessité. Tout se joue là. Car cette démocratie de la société civile ne prend tout son sens qu'en fonction d'un second temps, non pas tacitement politique, celui-là, mais explicitement politique, un second temps d'appropriation collective de cette invention historique que nul n'a commandée en amont, mais qui exige d'être gouvernée en aval. Gouvernée, c'est-à-dire d'abord reconnu, publicisé, explicité, comprise autant que faire se peut, et puis ensuite encadré, canalisé, organisé, stimulé, le cas échéant, encouragé, corrigé, cantonné. Tous les cas de figure se présentent. Mais dans tous ces cas de figure, le processus démocratique réside dans un travail de réflexion, au sens exact du terme, de retour sur et de digestion de cette création spontanée. Travail de réflexion qui en fait une histoire partagée. C'est proprement en cela que consiste le gouvernement de l'histoire qui avait été vainement cherché dans la période antérieure du côté des solutions totalitaires ou des solutions autoritaires. Toutes plus ou moins à base de postulation d'une fin de l'histoire. Or, on le voit bien ici, le gouvernement de l'histoire ne peut être par essence qu'une tâche indéfiniment à reprendre. Il implique un fonctionnement à deux pôles. Là où les solutions précédemment envisagées péchaient par naïveté moniste, en ne pouvant imaginer qu'un pilotage monolithique dans une collectivité d'un seul bloc. Ce fonctionnement à deux pôles est ce qui donne tout son sens à la notion de démocratie libérale, conjuguant l'inventivité libérale de la société civile privée et l'appropriation démocratique de cette création qui en fait une histoire publique. L'histoire où l'ensemble des participants privés et publics peuvent se reconnaître et se retrouver. nous avons à partir de cette figure idéale de ce que devrait être la démocratie libérale, le bon repère pour apprécier la situation actuelle de nos régimes et la signification du néolibéralisme qui les domine idéologiquement sous un visage ou sous un autre. Le néolibéralisme consiste dans le rejet ou le déni de ce second temps du processus démocratique au profit du seul premier temps de la démocratie du privé, de l'inventivité de la société civile, supposée se suffire à lui-même. À cet égard, il existe une étonnante continuité d'inspiration entre le néolibéralisme et le marxisme. Le marxisme, j'entends, le marxisme de Marx, et non le marxisme-léninisme que nous avons connu au travers du mouvement communiste au XXe siècle. Le néolibéralisme représente, en son fond, une nouvelle version de l'assaut de la société civile contre la structure politique. Certes, les perspectives sont très différentes quant aux modalités de cet assaut et à ses finalités. Pour Marx, il s'agissait d'un dénouement révolutionnaire de l'histoire destiné à détruire et à dissoudre la structure politique. Le néolibéralisme est infiniment plus modeste. Il ne vise pas la liquidation de la structure politique, mais seulement sa neutralisation dans toute la mesure du possible. Sa réduction au strict minimum fonctionnel. Il n'empêche qu'il est porté par la même foi dans la capacité dynamique de la société civile que le marxisme. C'est dans la société civile que ça se passe. La vérité de l'histoire est dans la société. Et il rejoint le marxisme dans la même indifférence, je dirais le même aveuglement, envers la fonction de l'appareil politique et du processus politique, au-delà des différences d'appréciation évidentes qui l'opposent au marxisme. Les signes politiques entre le marxisme et le néolibéralisme sont inverses, mais la philosophie fondamentale se greffe sur le même tronc. Sur la même foi démesurée dans la puissance indépendante de la société civile. En profondeur, c'est le même assaut anticlassique, si j'ose dire, de la société contre la structure politique qui repart depuis le bord politique opposé. Il y a continuité d'inspiration à ce niveau entre la conjoncture historique actuelle où le néolibéralisme donne le ton et la conjoncture antérieure où le champ idéologique s'organisait en fonction de la perspective socialiste, pour ou contre, mais en fonction d'elle. Une continuité d'inspiration antipolitique. Il faut savoir démêler cette continuité derrière l'opposition des doctrines. Chez Marx, elle s'inscrit dans la perspective de la fin de l'histoire, c'est-à-dire du savoir réalisé. La société communiste est la société qui se sait comme société et qui est délivrée de la politique à ce titre. Elle n'a plus à s'interroger sur elle-même. Chez Hayek, pour prendre l'auteur le plus cohérent et le plus conséquent et le plus puissant de la nébuleuse néolibérale, la société néolibérale est la société parvenue à cette suprême sagesse qui consiste en ceci, qu'elle sait qu'elle ne peut pas se savoir. La société où les acteurs savent que la libre action des individus engendre une résultante imprévisible et produit une évolution impossible à diriger. De telle sorte qu'il convient d'écarter une fois pour toutes toute ambition d'un pilotage politique en réduisant la politique à la préservation et à l'entretien des règles de ce libre jeu social. C'est par rapport à cette puissante propension, à cette tendance de fond qui les anime, que ressort ce qui fait défaut à nos démocraties dans leur phase actuelle et qui crée le climat de frustration indicible que nous connaissons. Indicible, puisqu'il ne peut pas trouver place dans le discours juridico-économique en fonction duquel nos sociétés s'agencent. Ce qui manque à nos sociétés, c'est une juste reconnaissance de l'objet de la politique, qui consiste justement dans ce travail de réflexion sur le travail des sociétés. Ce qui leur fait défaut, c'est la mise en œuvre dans le processus politique, par des moyens à définir, de cette réflexivité véritable en mesure de les éclairer sur ce qu'elles font et sur le point où elles en sont. Tout le problème est d'équilibrer l'inventivité libérale des sociétés qui ne saurait se suffire à elle-même par la réflexivité démocratique qui s'incarne dans la politique. Je pose cette perspective en guise de pierre d'attente, nous y reviendrons au moment voulu, au moment d'envisager pour conclure ce que pourrait être une démocratie d'au-delà de sa crise. Mais nous avons au moins un petit début de réponse. Ce serait une démocratie qui aurait digéré ce défi, dont jusqu'à présent elle n'a su s'arranger, le défi que représente cette dimension nouvelle avec laquelle nous n'en avons toujours pas fini de nous expliquer depuis 2 siècles qu'elle existe. La puissance pratique de devenir liée à l'indépendance de la société et à la liberté de ses acteurs. Nous sommes libres, mais nous ne savons pas quoi faire de cette liberté. ce sera le second temps d'histoire des démocraties, au-delà de la bataille pour la liberté, que de régler la question de l'usage de la liberté qu'elles ont à en faire. En attendant de venir à ce point final, ce qu'il faut interroger davantage, ce sont les ressorts qui accréditent cette idéologie néolibérale et qui paraissent donner corps à ce fonctionnement automatique qui anime nos sociétés et qui, sur la base de la connaissance qu'elles ont de leur fonctionnement, les persuade justement qu'il n'y a rien à savoir du produit qu'elles engendrent. Cette foi dans le fonctionnement automatique est ce qui accrédite la perspective néolibérale et à un point qui paraît constituer le fond inconscient de l'esprit qui guide nos sociétés dans leur phase actuelle. Fonctionnement automatique qui constitue justement le moyen de réduire la politique à la portion la plus congrue possible. La préservation des libertés privées dont le concours est supposé engendrer le bénéfice de tous. Nous avons pris plusieurs aperçus sous différents angles de cette confiance dans le mécanisme automatique l'idéal apparent des sociétés où nous sommes. Je voudrais rassembler ces aperçus dans un tableau raisonné. Cet automatisme systémique englobant l'ensemble des activités collectives, y compris la politique, la politique comprise comme gouvernance. Cet automatisme me semble correspondre à quatre facteurs principaux. En premier lieu, du point de vue de sa condition de possibilité, il s'enracine dans quelque chose. Il est rendu possible par la puissance de l'infrastructure institutionnelle et politique. Le point n'est pas nul, cela signifie que cet automatisme systémique repose sur un élément qui lui échappe. Nous sommes bien ici dans la méconnaissance et même la contradiction. Cet automatisme systémique suppose le politique dont il tend à évacuer le rôle. Deuxième facteur d'ordre idéologique, celui-là, cet automatisme systémique est fondamentalement congruent avec l'individualisme. Il est inspiré, non sans paradoxe, comme nous allons voir, par l'idée de faire basculer tout le pouvoir du côté de l'acteur individuel, de ses droits et de ses intérêts. Ce qu'il faut comprendre très exactement, c'est pourquoi un individualisme rigoureux ne peut mener à penser l'être collectif que sur le mode d'un fonctionnement automatique, dont l'économie va s'imposer tout naturellement comme le modèle. C'est que, nous arrivons au troisième facteur, un individualisme rigoureusement compris tend à expulser tout élément de volonté et toute référence à une idée d'ensemble dans l'organisation collective. C'est sur ce point que la vision d'un fonctionnement automatique prend le contre-pied strict de la structuration ancienne des sociétés, qui passait par l'incarnation d'une idée supérieure, religieuse ou pas, peu importe, au moyen d'une volonté politique. Ce dont les idéocraties totalitaires auront été l'ultime expression tératologique. L'axiome de départ, nulle part écrit, mais bien fonctionnel, est que seuls des individus sont fondés à se référer à une idée et à poursuivre une volonté. Le collectif ne peut être autre chose que le lieu neutre de leur coexistence et de leur interaction. C'est la raison pour laquelle la forme marché, empruntée à l'économie, s'impose comme la forme générale de la coordination des activités individuelles et collectives de toute nature. Dans la mesure où les agrégations et les arbitrages qu'opère le marché n'impliquent aucune domination au nom d'un principe supérieur. Si rude que puisse être, pour les acteurs individuels, ces arbitrages et ces produits d'agrégation. C'est pour la même raison que le mécanisme capitaliste, encore une fois dans son principe très simple, est très vieux. Il y a de la monnaie, il y a du capitalisme en ce sens. Le mécanisme capitaliste, c'est produire plus de capital avec du capital. Retour sur investissement. Ce mécanisme capitaliste en vient à être admis comme moteur et modèle du dynamisme collectif, de préférence à la mobilisation des forces sociales par un pouvoir au nom d'un projet d'ensemble. Ce mécanisme capitaliste représente certes une contrainte très forte, il implique une discipline rigoureuse et même implacable, mais une discipline objective et neutre, intellectuellement parlant. il ne dit rien de la manière dont peuvent être employées ces ressources ainsi dégagées, laissées à la discrétion des acteurs. À eux de bien se placer dans le processus. C'est là que les problèmes commencent à se déclarer. Mais ces problèmes considérables n'empêchent pas l'économie de fournir le modèle d'une solidarisation contraignante des acteurs et d'une obligation d'aller de l'avant. Ne laissez pas dormir votre argent, c'est la forme basique, qui leur laisse leur statut d'acteurs individuels sans rien au-dessus d'eux. De telle sorte que l'économie s'impose comme modèle de ce qui fait société pour des individus de droit. Et l'on comprend mieux ici comment une lecture libertaire radicale du capitalisme est possible, et non seulement possible, mais capable de recueillir de larges adhésions. Mais cela ne suffirait pas encore à expliquer les attentes investies dans cet automatisme du fonctionnement social dont le fonctionnement économique constitue le plus fort modèle, n'était la visée inconsciente qui traverse ce dynamisme. C'est le quatrième et dernier facteur qu'il nous faut considérer. Cette visée revêt deux aspects qui se complètent, qui s'imbriquent, qui s'enchevêtrent. Ce n'est qu'analytiquement qu'on peut les séparer. D'une part, elle opère une objectivation abstraite via la technique, via la monnaie, via les principes de droit. Elle opère une objectivation abstraite des rouages du monde humain social, qui la met en mesure d'assurer sa transcendance temporelle, au point éventuellement, transcendance temporelle, peu importe les acteurs qui sont concernés, qui sont partie prenante effective dans ce processus, il a sa consistance indépendante. Au point éventuellement de se substituer aux politiques dont c'est la fonction instituante majeure, dont c'était en tout cas la fonction instituante majeure. Il y a d'une certaine manière une relève du politique par la société économique. D'autre part, elle produit une artificialisation juridico-technico-marchande du même monde humain social qui le démarque symboliquement comme monde culturel du monde naturel, qui l'humanise, eût dit Marx. le jeune Marx en tout cas. Là aussi, la dynamique économique en son automatisme interne tente à se substituer à l'institution symbolique qui passait fondamentalement par la religion anciennement et plus récemment par le politique. Sans cette captation inconsciente, on ne comprendrait pas, là encore, la place conférée à l'économie dans nos sociétés. Si ce n'est la tentation de tout caler sur elle. Comme si l'automatisme de la société économique pouvait carrément se substituer à ce sur quoi elle repose, à ce qu'elle suppose comme la condition de son expansion. Ce sont ces éléments qu'il faut bien considérer pour avoir l'idée de la puissance à l'œuvre dans ce que j'appelais tout à l'heure l'assaut de la société civile contre la structure politique. Si le néolibéralisme bénéficie de cet ancrage dans la vie de nos sociétés, ce n'est pas de hasard, c'est parce qu'il peut compter sur des dimensions qui sont bel et bien à l'œuvre dans la dynamique effective de nos sociétés. Ce n'est pas un fantasme idéologique, c'est une réalité qui se greffe sur la dynamique même de nos sociétés à beaucoup d'égards. Ce que nous en arrivons à identifier là, c'est effectivement ce mécanisme autodestructeur où le produit en vient à se retourner contre ces conditions de possibilité. Cela veut bien dire que si nous voulons nous donner une chance de dompter cette société économique, il est indispensable de commencer par essayer de saisir ce qui s'y joue. Et ce qui s'y joue va bien au-delà de ce que ou la science économique ou les acteurs économiques peuvent se raconter à son propre sujet. Si nous attendons des économistes de nous délivrer de l'économie dans le rôle de modèle qu'elle joue aujourd'hui, nous risquons d'attendre très longtemps. Donc occupons-nous-en nous-mêmes. C'est plus sûr.
Très différentes. La première, est-ce que la formule de démocratie libérale que vous proposez ne risque peut-être pas d'être mal comprise, c'est-à-dire que la démocratie des néo-libéraux un peu mise, c'est-à-dire que là, il y a une formulation. Puis la deuxième question est, qu'avez-vous exactement une lecture libertaire du capitalisme?
Bon, sur cette deuxième question, il n'est pas très difficile de répondre. Il existe un courant important aux États-Unis. Il a fait de faibles relais en Europe, à ma connaissance en tout cas, doctrinalement, qu'on appelle libertariens. Hein ? Les libertariens, c'est des anarchistes de droite, convaincu que précisément l'avenir de la société libertaire se trouve dans une version d'un capitalisme radical. Alors, c'est dans le contexte américain, c'est un courant de pensée extrêmement influent. Et en fait, il me semble que son influence, pour n'être que peu déclarée idéologiquement, est en train de s'implanter assez solidement dans l'Europe d'aujourd'hui. Bien plus sur un mode d'acteur que sur un mode de doctrinaire qui exprimerait la chose dans des livres ou a fortiori dans un discours plus académique. Ça n'existe guère, mais c'est très puissant. Alors, j'avoue ne pas bien, ou je me suis très mal exprimé, ou j'ai mal compris votre question, j'avoue ne pas bien comprendre en quoi ce que j'ai esquissé, très rapidement, il faut le dire, à propos d'une démocratie libérale équilibrée, c'est-à-dire en mesure, dans le contexte où nous sommes, de balancer la dimension libérale par la dimension démocratique bien comprise, je ne vois pas en quoi cette idée, qui me semble assez facile à comprendre, risque d'être mal comprise.
Les néolibéraux peuvent très bien dire nous sommes pour la démocratie libérale. Voilà.
Ah ben, ils ne peuvent pas très bien dire, ils n'arrêtent pas de le dire. Non mais ça, c'est le propre de tous les termes avec lesquels nous battons aujourd'hui. C'est l'évidence. Nous naviguons dans l'entropie du langage politique, d'une manière générale, l'entropie du langage qui n'est pas le moindre problème de nos sociétés. De ce qu'on met derrière les mots est à chaque pas un problème. Bon. C'est une nouvelle condition écologique de la vie, de l'esprit. Le langage est un problème. Ah oui, en principe, c'est un instrument de communication, mais son maniement exige de passer la vitesse supérieure dans l'impératif de définition et de clarification des concepts. Donc, évidemment, les néolibéraux se réclament de la démocratie libérale en confondant la démocratie libérale avec le libéralisme. C'est-à-dire, ils ont fondu la dimension démocratique qui est purement et simplement évacuée, en fait, dans leur discours, à l'intérieur de la dimension libérale. Bon, ben c'est une opération de mystification, ou d'auto-mystification, car elle est de bonne foi, très généralement. C'est, entre nous soit dit, c'est la précompréhension spontanée que les acteurs dans nos sociétés, pour la plupart, ont de la démocratie libérale. Si vous leur demandez quelle est leur définition, ils vous répondront « La démocratie, c'est le régime où tout le monde fait ce qu'il veut. » C'est-à-dire qu'ils sont strictement néolibéraux. C'est un peu plus compliqué que ça. Justement, tout est là. Et ce processus de fusion, de résorption de la dimension démocratique dans la dimension libérale, c'est un problème général. Donc c'est précisément contre cela qu'il faut essayer de donner un contenu précis à l'idée de démocratie libérale. Mais qu'il soit difficile de la faire bien comprendre, ça, je vous l'accorde tout à fait.
D'un travail de réflexion qu'il faudrait conduire, enfin, qu'il faudrait produire plutôt, pour sortir de la situation que vous avez très bien décrite et avec laquelle je suis relativement d'accord, pas assez d'accord. Est-ce que ça veut dire pour vous, je pense que vous allez le dire plus tard, qu'il faudrait créer un nouvel espace social où cette réflexion et cette parole seraient partagées, travaillées, mises au travail ? Dans l'invention de cette recherche d'une nouvelle table politique, finalement.
Ben oui, bien entendu. Donc, je n'ai fait qu'indiquer une direction. Et il ne s'agit plus ici de simplement... comme il y a un travail des sociétés qui est organisé, il doit y avoir un travail politique de réflexion sur ce travail. Mais il suppose toute une dimension institutionnelle. Ce n'est pas simplement la réflexion des acteurs individuels. Nous sommes tout à fait libres les uns et les autres de raconter ce que nous voulons dans l'espace public et tout le monde s'en fout. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, évidemment. C'est de réfléchir. C'est d'ailleurs une chose qui a été entrevue par un certain nombre de bons esprits dès le XIXe siècle, à propos de ce qu'on appelait à l'époque le régime délibératif. C'est pas ça. Comment faire en sorte que cette délibération soit effective? Parce qu'on sait très bien que les enceintes parlementaires peuvent se ramener à une série de gesticulations successives parfaitement indifférentes à tout enjeu de fond. Donc, comment, voilà, le genre de progrès du mécanisme démocratique auquel nous devons songer. On peut faire des propositions là-dessus. Comment institutionnaliser un processus de délibération collective qui ait quelque effectivité sur le fond? Voilà, c'est de ça qu'il s'agit, évidemment.
Est-ce qu'on ne peut pas dire que l'automatisme de la société économique n'a pas déjà connu un pas en avant avec l'influence des nouvelles technologies, en particulier l'Internet, qui crée, pour ainsi dire, le monde rêvé du néolibéral? Et d'ailleurs, vous parlez des libertariens, c'est probablement pas un hasard si la plupart des gourous et chefs d'entreprise des grandes sociétés de l'Internet et des nouvelles technologies sont des libertariens.
Tout à fait d'accord. Je pense que c'est là le vrai sens, d'ailleurs, de cette ère numérique qui consiste bien moins, en fait, me semble-t-il, nous n'en sommes qu'au début, dans une ressource industrielle au sens habituel du terme, quand la constitution d'une forme de société appropriée au mécanisme que j'ai essayé de décrire. C'est ça l'enjeu. Et en effet, bon, il y a deux éléments que j'ai laissés de côté parce que je voulais simplement dégager la signification de cet automatisme et de la raison pour laquelle il a cette puissance dans l'imaginaire social contemporain. Il y a du côté des individus, des acteurs individuels, le salariat, qui est devenu la manière de concevoir la contribution des individus au travail social. Et chose qui explique en retour, d'ailleurs, l'extraordinaire drame que représente le chômage dans nos sociétés. C'est vraiment un élément clé. Et je crois que dans cette perspective, on comprend mieux l'enjeu qui s'attache à la participation par le travail à l'activité collective, dans une forme bien définie. Et l'autre élément que j'ai laissé de côté, c'est effectivement ce pas décisif que nous sommes en train de franchir vers la mise en réseau des sociétés, via le numérique, qui représente la base pratique d'un fonctionnement de marché intégralement automatisé en puissance. C'est-à-dire, en effet, ce que quand tu parlais d'espace rêvé pour les libertariens, on pourrait dire, je m'étonne d'ailleurs que cette interprétation n'ait pas été vraiment avancée, en tout cas à ma connaissance de manière très publique, c'est que jusqu'alors, le capitalisme s'était inséré dans la société telle qu'elle existe, sur laquelle il exerçait une certaine pression, mais qu'au travers du numérique et de la société des réseaux, il a créé pour de bon, techniquement, la forme de société qui lui correspond idéalement. Ce n'est pas une petite affaire. Et en effet, alors, l'idéologie va avec. Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Mais c'est pas la technique qui dicte l'idéologie. L'idéologie va avec la technique. Elles ne sont pas séparables, en fait. Ce sont deux choses équipollentes.
Je vais m'interroger sur l'appel fonctionnement automatique. Vous avez mentionné les libertariens. Parce que quand on regarde le travail, par exemple, du Gates Institute à Washington, qui est le cœur, je crois, de ces idéologues, il y a deux aspects. D'abord, les règles, si vous voulez, le mot libertarien ne doit pas dissimuler, me semble-t-il, que d'abord, dans la société américaine telle que le mot libertarien, les règles sont appliquées d'une façon inflexible.
Mm-hmm. Les règles sont
appliquées, si vous voulez, beaucoup plus inflexibles que qu'elles le sont en Europe, généralement. Et puis d'autre part, si vous voulez, c'est pas exactement, me semble-t-il, c'est pour ça le mot automatique, je m'interroge sur le mot automatique, parce que c'est pas exactement comme. Ils ont les règles de la circulation où chacun fait ce qu'il veut à l'intérieur, de respect des feux rouges, des stops, etc. Quand on regarde par exemple les débats et l'élaboration des règles sur par exemple la concurrence, le droit de la concurrence, dans les conditions techniques nouvelles, Internet, etc., c'est infiniment subtil et infiniment évolutif. Et ce que font ces libertariens, c'est un travail d'élaboration. Qui est souvent, me semble-t-il, plus élaboré que ce que peuvent faire les États et les administrations. Donc, est-ce que, finalement, cette société néolibérale, on peut considérer qu'elle est une société aussi schématique et aussi proche d'une situation un peu anarchique telle qu'on peut, vous semblez prêt de le laisser entendre?
Non, mais il ne faut pas se tromper. Entendons-nous bien. Il ne faut pas se tromper sur la signification du mot automatique. Automatique, ce n'est pas spontané. C'est là où d'ailleurs, dans le vocabulaire d'Hayek, il y a des flottements tout à fait étonnants de la part d'un esprit aussi aigu. Un automate, c'est un produit technique hautement sophistiqué. C'est pas quelque... Justement... quand je parle d'artificialisation juridico-technico-marchande de nos sociétés, c'est très de cela que je parle, c'est-à-dire de leur construction comme un mécanisme hautement élaboré par une connaissance consciente, sophistiquée. C'est pas les communautés primitives du tout qui fonctionneraient d'une manière... Non, c'est un travail de production de soi-même comme un automate aussi perfectionné qui exige en permanence que son fonctionnement soit sophistiqué, d'où c'est la fortune de la notion de complexité systémique. Donc, c'est en même temps une société de connaissances parce qu'elle exige des experts, de l'entretien, un formidable travail permanent d'ajustement. Pour faire fonctionner cette mécanique. Le mot d'automatisme me semble précisément intéressant pour ça. C'est qu'il fait signe vers le perfectionnement de l'automate. Et son caractère artificiel, qui est une dimension fondamentale dans le cas précis. J'ai vu d'ailleurs quelque part récemment. Tout d'un coup, la mémoire me manque sur l'endroit où j'ai repéré ça. Justement, un tenant américain du découplage de la société et de la nature, qui disait, il faut réussir à faire fonctionner une société sur un modèle aussi élaboré et sophistiqué qu'un cerveau humain. Mais bon, vous voyez, c'est pas un automate. Le cerveau humain, c'est un automate très ultra perfectionné et ultra complexe. C'est de ça qu'il s'agit. Pas d'une. Pardon ?
Pas de perfection, à mon avis.
Ça, on peut. C'est une question de mots. Qu'est-ce qu'on peut mettre à la place ? Moi, je suis ouvert à toutes les propositions. Je vous en prie.
Est-ce que vous ne pensez pas que la tyrannie de l'économie, comme vous l'appelez, donc qui accompagne la victoire du capitalisme néolibéral, est aussi accompagnée et due en partie à la guerre économique mondiale et à ses contraintes?
Alors, vous avez employé deux mots très lourds, hein, tyrannie et guerre. Alors, là, il faut bien s'accorder sur les mots, parce qu'ils ont un gros d'implication. Je veux bien admettre que l'économie a des aspects tyranniques. Ça, c'est pas... Parce que elle est intrinsèquement une discipline, hein, en fonction des mécanismes d'arbitrage et de dynamisme interne que j'ai décrite. Elle a des aspects tyranniques, mais si elle n'était qu'une tyrannie, on s'en délivrerait somme toute assez aisément. C'est un tyran bienveillant auquel nous demandons beaucoup. Voilà le problème. Si ça n'était qu'un corps étranger extérieur qui nous opprimait, ben, nous pourrions nous soulever contre. C'est pas comme ça que ça marche, justement. C'est la dimension interne de production de ce tyran, d'un genre très spécial, qui est en même temps un tyran qui nous nourrit. Et plutôt bien, dans l'ensemble. C'est ça qui fait la difficulté. Et de la même façon, y a-t-il une guerre économique? Alors, c'est un point très intéressant à examiner, parce que pour qu'il y ait guerre, il faut qu'il y ait des entités en guerre. Du point de vue de la théorie économique, il n'y a pas de guerre, il y a de la concurrence. Et précisément, la concurrence est quelque chose de totalement différent de la guerre, puisqu'elle s'inscrit à l'intérieur d'un espace pacifié, où des offres cherchent à s'imposer aux dépens d'autres. Donc c'est une lutte d'un genre particulier, mais ce n'est pas une guerre. Pourquoi parle-t-on de guerre économique? Parce que, en effet, il y a une greffe de cette dynamique économique sur des entités politiques. Quand on dit qu'il y a une guerre économique, il y a des gens qui en ont écrit, et assez bien d'ailleurs, ils partent d'un postulat qui est précisément ce qui fait problème. Vous ne pouvez pas régler comme ça d'un coup de cuillère à peau. S'il y a guerre, c'est que l'économie est considérée comme un moyen de la puissance politique. Alors, jusqu'où? C'est dans une certaine mesure vrai, ça, ce qui veut dire que l'extériorisation de l'économie comme système par rapport à la vie des sociétés et indépendante d'elles n'est pas complète, elle ne peut pas l'être, d'ailleurs, je pense, mais que les États continuent d'être des acteurs économiques significatifs. La doctrine officielle économique, c'est que les États ne sont plus acteurs de l'économie qu'au titre de l'aménagement des conditions de la concurrence. C'est ce qu'on appelle la compétitivité. Jusqu'où ça va? Jusqu'où se noue néanmoins l'emploi de l'économie comme puissance? Prenons l'exemple sur lequel on s'interroge beaucoup aujourd'hui, la Chine. Est-ce que, question constamment posée, est-ce que le projet chinois n'est pas d'abord le projet d'utilisation de l'économie, dans ce cadre de capitalisme socialiste, genre assez particulier, mais est-ce que ça n'est pas en fait un moyen politique de puissance, dont le but en réalité est de remettre la Chine au premier rang d'un jeu de puissance. Là où les économistes vous disent, mais cette histoire de puissance, c'est dépassé, c'est fini, on n'en cause plus, il n'y a que des ringards qui continuent de... Voilà, c'est des questions tout ça, c'est pas des choses qu'on peut aisément trancher.
De la concurrence, justement. Je suis d'accord avec ce que vous dites, mais ne pensez pas vous que dans la concurrence, il y a une sorte de guerre?
Ah!
Dans le sens qu'il ne s'agit pas de compétition avec l'autre, mais il s'agit d'éliminer l'autre. Dans plusieurs cas, lorsque, par exemple, on délocalise, on élimine une partie de l'économie ici pour
kiosque et il y a des armes pour nuire au concurrent, à celui qui a la même visée que vous. C'est-à-dire, est-ce que dans la concurrence, il n'y a pas cette idée de destruction de l'homme?
Alors, si vous voulez, le problème est à considérer sous deux angles. Et là aussi, je ne pense pas qu'il s'agisse d'un problème facile à trancher, mais d'une difficulté qu'il faut objectiver autant que possible. Il y a la dimension du mécanisme économique lui-même. Et puis, il y a la dimension de ce que les acteurs investissent dans ce mécanisme. Que les acteurs investissent des éléments hautement agonistiques dans le processus économique, y compris la visée d'anéantissement de leurs concurrents, c'est pas douteux. Et qu'il y ait par ailleurs, c'est l'un des problèmes de l'automate perfectionné que dont rêvent les libertariens, c'est que les règles de la concurrence en fassent qu'elles s'exercent loyalement. Ce qui, en fait, est assez rarement le cas, pour toutes sortes de raisons bien connues. Là, on en a beaucoup parlé. Donc, la concurrence est très souvent déloyale. C'est l'élément qui invalide, et ça a été repéré il y a très longtemps, la plupart des analyses classiques sur le marché. Les acteurs sur le marché n'ont qu'une idée. C'est de dominer le marché pour l'infléchir dans leur sens. Donc, la stratégie de marché, c'est de le dominer ou de constituer des oligopoles, etc., pour se délivrer de ses contraintes. Il ne faut pas rêver sur c'est un jeu stratégique. Quand vous entrez sur un marché, ce n'est pas pour vous y soumettre benoîtement en attendant que les arbitrages tombent, c'est pour essayer de ruser avec eux. Donc il y a l'élément de déloyauté et l'élément de destructivité du point de vue des acteurs est omniprésent. Mais là où le raisonnement classique y remonte loin, puisque c'est toute la théorie du doux commerce qui émerge au XVIIIe siècle, c'est que nonobstant cette pulsion destructive, guerrière, vindicative, la haine qui est à l'œuvre dans le monde économique, ô combien, est neutralisé du point de vue de ses conséquences ultimes par le jeu même de l'économie. C'est-à-dire, vous ne tuez pas les gens. Ça arrive, on peut faire appel à la mafia pour les tuer. Avec des tueurs à gages, des concurrents vraiment encombrants, on en a des exemples, mais c'est quand même rare. Donc, on ne va pas brûler l'usine de son concurrent en général. Vous voyez, c'est ça. Donc, il y a quand même bien une neutralisation. Et à de certains égards, il n'est pas absurde de considérer que l'économie est ce qui rend possible la pacification des sociétés en recyclant toutes les personnalités spontanément portées vers la violence et l'assassinat, vers des activités plus contrôlées par nature. Le monde économique est peuplé de fascistes sanguinaires, c'est évident. Il suffit de s'y être frotté pour le voir de près. Mais néanmoins, il est exact qu'on arrive à les tenir, moyennant les règles du jeu, dans l'essentiel des cas. Voilà, il y a cette ambiguïté. Pardon ?
Comment appelez-vous la politique de l'Arabie saoudite en matière de pétrole, de la Russie en matière de gaz et de guerre de l'Ukraine ? C'est la concurrence, là.
Ah, mais non !
C'est une arme de guerre.
C'est pas... dans le cas de l'Arabie saoudite, sûrement pas. C'est une arme diplomatique. Mais c'est un cas particulier, puisque vous avez un État très particulier dans sa structure politique, assis sur une rente. Bon, il en fait l'usage qu'il peut. Dans le cas de la Russie et de l'Ukraine, c'est en effet, on n'est pas du tout dans de la concurrence, on est dans l'utilisation d'une ressource comme, non pas une arme, mais un moyen de pression. C'est pas pareil. Une arme, ça veut dire quelque chose de précis. C'est un instrument de pression, oui. Et ça, mais, auquel nous répondons, nous, par d'autres instruments de pression, sous forme de sanctions économiques. Mais ça, il y a toujours une interférence entre le monde économique et le monde politique. Elle ne disparaîtra pas de sitôt. Surtout que nous sommes là dans des zones qui ne sont pas précisément les zones libérales du monde. Dans les deux cas.
Steve. Oui, non. Si on conjugue par votre idée de automatisation à l'extrême, et on appuie ça à l'Internet, le numérique, on crée un numérique tellement dense de symboles, difficile à maîtriser, que ça casse la machine, l'automate. J'ai eu une discussion dans mon bureau juste avant de venir avec un collègue.
Oui, j'arrive.
Et il m'a dit que ses collègues qui enseignent la publicité remarquent que de nos jours, pour faire passer un message, il faut des messages de plus en plus choc. Au départ, c'était l'obscénité, tout ce qui était hors scène. Maintenant, on a intégré l'obscénité dans notre société. Donc, pour faire passer un message, c'est la façon de la faire avec une extrême brutalité qui capte notre attention. Les politiques qui cachent la grammaire lexique et la façon de voir le monde. Donc, cet extrême libertarianisme, si vous voulez, rend impossible pour la machine automatique de faire fonctionner.
Parce je ne suis pas sûr.
En train de mettre en question les règles du grammaire de cet automatique.
C'est pas sûr, parce qu'il a une grande souplesse et une grande capacité d'encaisser les chocs.